Les mondes africains, et d'abord la Nubie et l'Éthiopie.
Dis-moi, Griot, toi qui sais tout, peux-tu m'expliquer ce qu'on appelle une dynastie?
Tu as raison, Moussa. Si je ne sais pas tout, je sais beaucoup de choses. Car mes ancêtres parlent en moi. Et je puis te dire ce qu'est une dynastie.
Parle, oh Griot, je t'écoute.
Presque toutes les dynasties se sont éteintes. C'est-à-dire que le dernier roi est mort ou a été tué sans laisser de descendance. Il en est cependant une qui dure encore, et depuis fort longtemps.
Hein? Et laquelle?
Celle de l'Éthiopie, ou comme on disait naguère, de l'Abyssinie.
Celle de...
Tu ne connais pas la carte d'Afrique? Tu as bien entendu parler de l'Égypte et de l'Arabie.
Ah oui! Et entre les deux, il y a une mer étroite comme un vaste canal, et qu'on appelle la mer Rouge.
C'est ça. Et bien au sud de l'Égypte, il y a un immense pays montagneux. C'est lui qu'on appelle l'Éthiopie. Et c'est là que règne actuellement l'empereur Haïlé Sélassié, qu'on appelle aussi le Négus, c'est-à-dire le roi, ou le Négoussa Nagast, c'est-à-dire le roi des rois.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Pour commencer, l'extrait d'une émission de longue durée, Mémoire d'un continent, sur la Radio Nationale, puis ensuite sur Radio France Internationale. Mais notre invité, notre guide, c'est François-Xavier Fauvel.
Bonjour.
Sur les routes de l'Afrique, et vous êtes à la tête d'une jeune chaire au Collège de France. Alors jusqu'ici, il y avait des chaires qui traitaient de sujets africains, mais le continent en lui-même était comme contourné par les dirigeants du Collège de France. Votre chaire s'intitule clairement « Histoire et archéologie des mondes africains », et dans la leçon inaugurale, vous avez insister sur le fait, François-Xavier Fauvel, que l'histoire est évidemment possible en Afrique et qu'il n'y a pas seulement un passé de l'Afrique, mais des passés de l'Afrique.
Oui, comme je dis parfois que c'est un continent géographique et plusieurs continents d'histoire, parce qu'on ne peut pas ramener l'histoire de l'Afrique à une seule trajectoire, historique. Quand on s'intéresse à l'histoire de l'Afrique, quand on collecte ce que font tous les historiens et historiennes, quand on collecte des sources, des documents qui peuvent être matériels ou écrits ou oraux ou rupestres, on est bien obligé de constater qu'il y a plusieurs continents d'histoire.
Mais attention, vous dites il n'y a pas l'Afrique blanche et l'Afrique noire, parce que la division chromatique, ça peut se discuter. Et puis il ne faut pas nécessairement diviser l'Afrique en fonction des empires coloniaux.
Alors, il ne faut pas diviser l'Afrique en fonction des empires coloniaux. Il ne faut pas diviser l'Afrique en fonction de l'histoire récente. Ce serait un anachronisme. Voilà. Et en outre, la division chromatique elle-même est le produit d'une histoire de longue durée, qui est l'histoire de la formation du Sahara, qui est l'histoire du commerce à travers le Sahara, qui est l'histoire de la traite des esclaves à travers le Sahara et à travers l'Atlantique. Donc, notre tâche est de remettre chaque Afrique dans son contexte historique, géographique, climatique, environnemental, etc. Et par conséquent, d'abolir voilà ces faux clivages voilà du présent.
Les passés de l'Afrique sont contemporains d'autres passés, d'autres sociétés, d'autres continents. Un volume que vous avez dirigé, très beau volume dans la collection Mondes anciens, l'Afrique ancienne chez Belin, n'a pas été pour peu dans votre élection. Vous faisiez référence à toutes les sources qui peuvent être mobilisées. On a entendu en exergue, c'était quasiment inévitable, un griot, ou un griot recomposé par la radio qui faisait état d'une tradition finalement assez récente qui établit l'antiquité du Négus et du roi des rois. Qu'est-ce que vous diriez du rôle de l'oralité? Parce que nous autres, Européens, avons tendance à résumer les sources de l'histoire africaine dans l'oralité.
Oui, alors on a souvent, quand on ne connaît pas, une approche soit naïve, soit sceptique, ou je dirais même hyper naïve ou hyper sceptique. Non, l'oralité existe. L'oralité, ce sont des formes très particulières de transmission des connaissances qui existent dans certaines sociétés africaines, pas dans toutes, mais dans certaines sociétés africaines, où des spécialistes de l'oralité, qu'on pourrait appeler des clercs de l'oralité, sont chargés, au cours de leur vie, d'apprendre un certain type type de récits et puis de transmettre ces récits, qui de ce fait se transmettent d'une façon relativement standardisée, d'une façon relativement stable à travers le temps. Donc ça existe. Et le travail des historiennes et des historiens, c'est de collecter ces différentes versions de récits oraux qui peuvent être par exemple des épopées, qui peuvent être des récits d'origine, qui peuvent être des listes dynastiques, des listes de souverains qui se sont succédés sur un trône, bon, qui peuvent être inversement des généalogies, donc dans le sens inverse. Bon. Et ces récits, on collecte différentes versions, on les compare les unes aux autres, on peut parfois comparer le résultat qu'on obtient avec d'autres sources, qui peuvent être des sources écrites par les sociétés elles-mêmes, ou des sources produites par des sociétés, par des voyageurs européens, ou par des voyageurs arabes, et on peut remonter de la sorte dans le temps. Donc oui, ça existe, mais ça se travaille comme un document. Mais ce n'est pas tout, l'oralité n'est pas tout, on ne peut pas résumer l'histoire de la documentation disponible pour l'histoire de l'Afrique à la seule oralité, il y a beaucoup d'autres choses, et en particulier de l'écrit.
Et puis, il y a le travail de l'archéologue, parce que vous êtes de formation archéologue, mais on va y revenir, François-Xavier Fauvel. Alors vous vous demandez, dans le volume Afrique ancienne, par où commencer, par où débarquer en Afrique, ça peut être le Nil, moi j'irai bien vers les cataractes, vers l'amont du Nil, vers les royaumes nubiens, alors vous en faites, comme les traditionnistes qui pratiquent l'oralité, une liste, Kerma, Napata, Méroé, et si on prenait, disons, du côté du 4e siècle après notre ère, là il y a plusieurs royaumes en amont du Nil, qui sont les royaumes nubiens.
Absolument. On observe de changements, de profonds changements sociaux au 4e siècle dans la ce qu'ils appellent la moyenne vallée du Nil, donc au-dessus, en amont de la première et de la deuxième cataracte, dans le nord de ce qui est aujourd'hui le Soudan, le Nord-Soudan. Bon. Et là, la population se recompose à la faveur d'arrivée de nouvelles populations, etc. Et on voit arriver des Nubiens. Et ces Nubiens, très rapidement, forment de nouveaux royaumes et reçoivent des missionnaires venus de Byzance et se convertissent. Et au 6e siècle, on a plusieurs royaumes chrétiens en Nubie.
Ça, c'est l'axe nord-sud. Et puis, il y a aussi une connexion est-ouest avec, sur les hauts plateaux éthiopiens, dominant la plaine littorale qui permet le contact avec la mer Rouge et l'autre rive de la mer Rouge, l'arabique, un royaume puissant qui s'appelle Aksum.
Absolument, donc vous avez raison, c'est l'autre axe, non pas l'axe nilotique qui remonte vers l'intérieur de l'Afrique, mais un axe transversal qui est un vieil axe commercial, hein, un axe qui rejoint la Méditerranée orientale par la mer Rouge jusqu'à l'océan Indien. C'est un axe que connaissaient bien les Romains, hein, les navigateurs romains qui allaient jusqu'en Inde. Et le long de cet axe-là, effectivement, se diffusent, circulent des marchands grecs, chrétiens. Le grec est la langue véhiculaire du commerce dans cette région, et le christianisme est en quelque sorte la religion véhiculaire des marchands de cette région. Et au 4e siècle, un souverain du haut plateau, dans ce qui est aujourd'hui l'Érythrée et l'Éthiopie, se convertit au christianisme, et ce souverain s'appelle Ezana, et il est l'un des rois du royaume d'Aksum.
Le royaume d'Aksum qui est en lien avec la mer Rouge par un port qui s'appelle Adulis. Alors, je disais que vous étiez archéologue, vous avez effectué beaucoup de missions pour l'Institut français d'Addis Abeba, qu'il vous est même arrivé de diriger, succédant à ce poste, à Jean Leclan, que voici, Jean Leclan de glorieuse mémoire, et interrogé en 1953 par la Radio Nationale, par Pierre Ichac de glorieuse mémoire pour les artisans de la radiophonie. Il animait une émission sur l'Union française.
Il y a maintenant un institut de recherche qui est organisé de quelle façon ?
Cet institut est essentiellement une création de Sa Majesté l'Empereur, qui d'une part voulait protéger le patrimoine du pays, c'est-à-dire l'histoire telle que la racontent les monuments, et qui d'un autre côté, voulant faire progresser la culture de l'Éthiopie, a voulu créer ainsi une sorte d'organisme d'enseignement supérieur.
Vous êtes à la tête de l'Institut d'archéologie avec deux collaborateurs français.
Nous sommes effectivement trois. En effet, l'archéologie éthiopienne est une science toute neuve, une science qui se crée actuellement. Une expédition allemande, dirigée par Enno Littmann et Krenker, a travaillé, et d'une manière admirable, à Aksum en 1905. Les savants italiens ont fait eux aussi des reconnaissances, nous ont décrit des antiquités aksumites, nous ont décrit quelques grands monastères. Mais tout cela, ce n'est qu'un premier début.
Et puis François-Xavier Fauvel est venu, et puis d'autres aussi qui ont observé les antiquités aksumites. Alors, on avait laissé ce royaume dans la continuité chrétienne depuis le nord, formant une forme de croix, l'axe est-ouest Aksum-Adulis. Vous avez travaillé en archéologue sur le déclin des antiquités aksumites. Alors, pourquoi la grande stèle qui marquait une tombe de roi s'est-elle écroulée, et pourquoi cette société a-t-elle décliné?
Alors, cette Aksum, c'est en effet ce site qui est la capitale du royaume aksumite, qui a duré en gros du deuxième siècle de notre ère jusqu'au sixième ou septième siècle de notre ère, christianisé donc, je le rappelle, au quatrième. Un site caractérisé par ces très très grandes stèles monolithiques qui font jusqu'à 20 mètres ou plus, et qui toutes sont, enfin pour beaucoup d'entre elles, pour les plus grandes d'entre elles, sont tombées. On date le déclin du royaume d'Aksum des alentours du septième siècle, un moment qui est contemporain de l'essor de l'islam en mer Rouge. On a sur la péninsule arabique qui est donc juste en face. C'est un moment où tout change. Ce septième siècle, c'est-à-dire que jusqu'à présent les marchands étaient, comme je disais tout à l'heure, grecs, de langue grecque et de religion chrétienne. Tout à coup, la langue véhiculaire du commerce en mer Rouge devient l'arabe, la religion dominante devient l'islam, les routes changent et le royaume chrétien devient en quelque sorte une périphérie et non plus du tout un acteur central de ce commerce. Les principaux acteurs se retrouvent sur la péninsule d'en face, la péninsule arabique. Donc voilà, on a ce
et
moment.
Et le grand axe marqué par la continuité Byzance, Alexandrie, Nubie, Éthiopie, est segmenté.
Il est segmenté exactement, et alors que les chrétiens éthiopiens jusqu'à ce moment-là vivaient dans un œcumène continu, un domaine chrétien continu, tout à coup ils se retrouvent effectivement coupés avec un islam qui devient politiquement dominant en Égypte, politiquement dominant en mer Rouge et sur les côtes de la mer Rouge. Donc la chrétienté éthiopienne se retrouve en quelque sorte dans un arrière-pays, et continue de survivre pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui.
Cependant, avec des enclaves musulmanes, voire païennes, en Éthiopie.
Absolument. Alors c'est ça qui rend l'histoire de ce pays tout à fait intéressante, l'Éthiopie voit cohabiter donc un royaume chrétien profondément ancré sur ces hauts plateaux de la corne de l'Afrique avec des sultanats, des petits royaumes musulmans, plusieurs. Qu'on a commencé à documenter archéologiquement assez récemment, en retrouvant des villes, en retrouvant même la capitale de l'un de ces grands sultanats, celui de l'Ifat. Il y a en ce moment même en Éthiopie une mission qui fouille un site du 11e, 12e siècle, un site musulman du 11e, 12e siècle, un grand site urbain. Et puis en même temps, effectivement, ces chrétiens et ces musulmans ne viennent pas de l'extérieur, ce sont des Éthiopiens qui ont adopté et adapté et le christianisme et l'islam. Par conséquent, il faut regarder les choses aussi avec les sociétés païennes d'Éthiopie elles-mêmes qui font ce choix de devenir chrétiennes ou de devenir musulmanes. Donc voilà, on a dorénavant ce panorama beaucoup plus épais, beaucoup plus complexe que ce qu'on a longtemps cru voir à propos de l'Éthiopie, avec une société très multiconfessionnelle qui voisine les unes avec les autres.
Disons qu'on est en l'an 1000 ou un peu après. C'est vous qui composez le programme musical cette semaine, François-Xavier Fauvel. Alors votre choix, une chanteuse éthiopienne?
Oui, Etenesh Massié, qui est une chanteuse, une jeune chanteuse, qui cependant s'inscrit dans une tradition qui est celle de l'éthio jazz, le jazz éthiopien, qui a eu véritablement son heure de gloire depuis les années 60, et cette chanteuse a fait la rencontre de deux musiciens français, et c'est ça qu'on va entendre. Dinner,
le roi leur aïe fait comme tchagna naga sa sunya leur aïe fait comme tchagna naga sa sunya leur የፍቅር መጫኛው አጋሰሱኛለሁ
La marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter.
Je n'ai pas nommé les deux accompagnateurs français, Mathieu Sourisseau et Sébastien Bacchia. J'ai nommé l'accompagnateur de toute la semaine pour la marche de l'histoire, c'est François-Xavier Fauvel, nouveau professeur au Collège de France, histoire et archéologie des mondes africains. Nous avons laissé la société de Nubie et d'Éthiopie autour de l'an 1000, les royaumes chrétiens de Nubie que vous documentez. Avec des fresques rupestres, par exemple, extraordinaires, vont peu à peu s'éteindre. Disons qu'à partir du XIVe siècle, la Nubie n'est plus chrétienne.
Disons, la Nubie très tôt subit l'influence de l'Égypte voisine, l'Égypte musulmane voisine, avec des incursions de Bédouins venus de la région d'Assouan qui progressivement pénètrent en Nubie, s'installent en Nubie. On voit ça, c'est très très bien documenté par les tombes musulmanes. Et puis progressivement, voilà, une emprise croissante de cet islam venu de Haute-Égypte sur la société nubienne. Et puis en effet, à partir du XIVe siècle, c'est la fin, c'est le début de la fin, si on peut dire. C'est-à-dire que la chrétienté nubienne disparaît. On pense qu'à partir du XVe siècle, il n'y en a plus. C'est-à-dire que bon, et là, le pouvoir est musulman et il n'y a plus de chrétiens en Nubie.
Jusqu'à ce moment. Sur les plateaux d'Éthiopie, bien que contrecarré par un royaume païen, il y aurait même une reine dangereuse, et des royaumes musulmans, la dynastie chrétienne reprend du poil de la bête
à partir du
XIIe, XIIIe siècle.
Oui, c'est effectivement deux destins très intéressants, et deux destins parallèles très intéressants que ceux de la chrétienté nubienne et de la chrétienté éthiopienne. Et en effet, la chrétienté éthiopienne, elle, se poursuit, non sans quelques accrochages avec les voisins païens, comme vous l'avez dit, ou musulmans, mais disons que c'est globalement la même entité politique, la même formation politique, le même royaume, enfin, en tout cas les mêmes institutions, la même langue, la même écriture, qui se perpétuent voilà, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.
Mais c'est seulement à partir de ce XIIe, XIIIe siècle, le roi Lébile est là, l'idéologie salomonienne que s'installe, le légendaire que nous partageons tous encore, l'union de la reine de Saba et du roi Salomon aurait donné lieu à une dynastie remontant à la plus haute antiquité.
En effet, on voit à la fin du XIIIe siècle apparaître en Éthiopie une nouvelle dynastie. Il y a un changement dynastique qui du reste est assez obscur, pour lequel on n'a pas beaucoup de documentation. Et une nouvelle dynastie qui se considère comme salomonienne, c'est-à-dire d'ascendance de la lignée des rois hébraïques et se dit descendante de Salomon et de la reine de Saba. Il y a tout un travail là qui dans le récit national éthiopien, tout un travail voilà consistant à réécrire à retisser une nouvelle narration de l'histoire, on en a puisé une légitimité dans la Bible et en particulier dans l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant d'observer comment ce récit voilà revigore donc l'histoire éthiopienne.
Les rois d'Éthiopie font alliance étroite avec le clergé. Les monastères sont des lieux très importants pour eux. Par exemple, nous sommes là au bord du lac Tana, au nord de l'Éthiopie. C'est une émission de Louise Weiss, 1963, avec un commentaire inspiré de Jean-Claude Bringuier.
S'ouvrent les portes des monastères inconnus du Haut-Nil, cette fois sur les fresques de la chapelle intérieure. Les plus belles de ces peintures d'âges différents ont été faites entre le XVe et le XVIIe siècle. Le diable qui ricane dessous de la croix, les saints d'autrefois l'ont exorcisé avec leurs armes. Comme le font encore leurs descendants spirituels, ces moines coptes, peint par un moine au lac Tana. Des moignons préparent la relève. On leur enseigne le dogme, les rites, les prières, et ce tout cela, sans même qu'ils le sachent, l'art d'ordonner sereinement le temps, la paix du cœur. Comme on va au puits tirer l'eau fraîche pour étancher sa soif, rituellement, les moines se penchent sur les écritures saintes qui couvrent les parchemins des livres religieux, magnifiquement et naïvement enluminés. Et le profond savoir et toute la sagesse du monde qu'ils trouvent dans ces livres semblent alors se refléter sur les visages qui les guettent.
Les livres religieux, et pas seulement religieux, et pas nécessairement enluminés, conservés par dizaines, voire par centaines de milliers, dans les monastères d'Éthiopie, à qui dit François-Xavier Fauvel que la seule source est l'oralité en Afrique, vous opposez, par exemple, ces dépôts d'archives extraordinaires des monastères éthiopiens.
Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on ne sait souvent pas en Europe ou en France en particulier. C'est qu'il existe des traditions lettrées. Il existe des cultures lettrées en Afrique. Et l'Éthiopie en fait partie. Voilà, depuis... De façon continue depuis l'Antiquité, l'écriture a été pratiquée, des lettrés ont été formés, qui ont écrit des livres, qui ont transmis un système d'écriture et une tradition lettrée et une tradition manuscrite.
Et des traductions aussi.
Et des traductions.
Des traductions du grec, de l'arabe.
Absolument, des traductions du grec, des traductions de l'arabe. Et ces manuscrits sont dans les monastères encore aujourd'hui. C'est une tradition qui est encore vivante, de la même façon qu'on a entendu une liturgie encore vivante. De la même façon, cette tradition manuscrite est encore vivante et tous les jours des manuscrits sont copiés ou recopiés. Pour les chercheurs, puisque c'est ça qui nous intéresse, pour les chercheurs, tous ces manuscrits ou l'essentiel d'entre eux sont microfilmés et sont disponibles à la recherche.
Parce que, court sur eux, des rumeurs, ils sont en danger, on les entrepose, d'autres matières de forte valeur avec, du carburant, par exemple, les monastères n'auraient pas les moyens d'entretenir suffisamment les fonds.
Disons que c'est comme toutes les traditions écrites, vivantes, voilà, elles font l'objet, on peut parfois effectivement s'étonner de voir des clercs éthiopiens qui semblent négliger les manuscrits au moment où ils les recopient ou qui ripollinent des peintures pour rafraîchir les couleurs. C'est ce qu'est une tradition vivante. Bon, et donc j'ai envie de dire qu'il faut résister à la tentation de vouloir systématiquement patrimonialiser. Voilà, ces livres là et ces peintures là sont disponibles à la recherche. Et laissons les Éthiopiens continuer leur culture lettrée.
C'est intéressant le cas de l'Éthiopie parce qu'il y a en parallèle une islamisation et un approfondissement de la christianisation avec à la fois des affrontements et une complémentarité et peu à peu quand même une domination sur toute la région de l'Égypte des Mamelouks. Les Mamelouks qui ont été vainqueurs de Saint-Louis, les Mamelouks qui ont été vainqueurs des Mongols et dont l'influence descend vers le sud jusqu'à l'Éthiopie. L'Éthiopie qui doit faire appel pour la nomination de son métropolite, du chef de son église, au patriarche copte du Caire, et le patriarche copte du Caire, il est sous l'influence du sultan d'Égypte, à qui les souverains d'Éthiopie doivent envoyer des ambassades. Nous sommes ici, c'est toujours Mémoire d'un continent, dans les environs de l'année 1480.
Les Éthiopiens avaient été bien informés avant l'audience du protocole auquel ils devaient se conformer dans la salle d'apparat, où des mamelouks, rangés autour du prince, faisaient régner un silence tel que l'on entendrait passer une souris. Malgré cela, l'ambassadeur du prêtre Jean, en partant de son logis pour le palais, fit porter avec lui un chariot riche et pesant, probablement quelques trônes, fait de bandes d'or, un arc et 6 flèches d'or. Il se présenta ainsi à la porte de la salle d'audience. Il aurait dû s'y prosterner 3 fois, à l'entrée, au milieu et devant le souverain, mais il se refusa à baiser le tapis. Il prit en main l'arc et les flèches, fit poser à terre son chariot et, s'y étant assis, il adressa la parole en arabe au sultan. Sire Soudan, veux-tu avoir la paix avec ton seigneur et le mien, le prêtre géant ? Demanda-t-il à Kaït Bey et Bailly, qui lui répondit. Mes prédécesseurs Soudan n'ont accoutumé d'avoir guerre avec le seigneur prêtre géant. L'ambassadeur reprit. Ne dis point le seigneur prêtre géant, dis ton seigneur, ou sinon je m'en vais tel que je suis venu. Lors, dit le Soudan, je veux avoir la paix avec mon seigneur prêtre géant. Sur cela, l'ambassadeur descendit du chariot et l'offrit au sultan avec l'arc et les flèches d'or en ajoutant « Tu dis vrai, il est ton seigneur, car en sa main est ta vie et ta mort. »
C'est une source chrétienne qui montre comment les Éthiopiens résistent à la puissance des Mamelouks en Égypte. Et c'est pour ça qu'est utilisé ce mot que jusqu'ici j'ai évité d'introduire, « royaume du prêtre Jean ». Ainsi est vu l'Éthiopie depuis Rome et depuis la façade nord de la Méditerranée.
Qu'est-ce que c'est que le prêtre Jean ? C'est une légende qui fleurit dans l'Europe médiévale, qui dit en substance qu'il existe quelque part en Orient un royaume dont le roi est à la fois prêtre et roi, qui s'appelle Jean et qu'il est chrétien. Bon, et que quelle est la fonction de cette légende ? Ben, c'est que ce roi prêtre chrétien, il est en quelque sorte la deuxième ligne derrière le monde musulman. C'est en quelque sorte
le deuxième. On peut contourner l'islam.
Exactement. On peut contourner l'islam et on est tenté d'y voir une espèce d'allié de revers, voilà, qui va prendre en sandwich les musulmans. Et puis, il y a différentes théories au Moyen-Âge sur la localisation de ce royaume du prêtre Jean. On le voit en Asie, etc. Et puis, on finit par le localiser, ou à croire le localiser en Éthiopie. Puis, comme les souverains éthiopiens sont informés et malins, ils comprennent tout l'intérêt qu'il y a à dire, oui, c'est bien nous, prêtre Jean.
Et ils vont envoyer des moines jusqu'à Rome. Allez, une petite histoire irénique pour finir et qui montre les connexions de l'Éthiopie avec le monde européen. Un moine, Gorgoros, est au milieu du XVIIe siècle à Rome, dans un monastère où il y a beaucoup d'Éthiopiens, San Stefano. Il rencontre un Allemand, il va lui-même aller en Allemagne. Et ses travaux, à présent, s'intriguent Leibniz.
Oui, parce que c'est la rencontre entre ce Job Ludolf, érudit allemand, et puis ce moine éthiopien Gorgorios va permettre de produire sous la plume de Ludolf une véritable somme de connaissances, une grammaire de l'amharique, une grammaire du gaz, la langue classique, une histoire de l'Éthiopie, un commentaire de l'histoire, une théologie éthiopienne, etc. Bon.
Et Leibniz se greffant là-dessus vient l'idée d'échantillonner toutes les langues du monde.
Exactement, voilà. Donc on est dans cette phase humaniste de l'histoire de l'Europe dans laquelle les rencontres font sens. Mais le point sur lequel, là, il faut insister, c'est que les Éthiopiens ont participé eux-mêmes à la dissémination des connaissances se rapportant à leur propre pays, à la faveur de pèlerinages, d'ambassades, à Rome ou à Jérusalem, ou en tout cas dans toute la Méditerranée.
L'histoire de l'Afrique, des Afriques que nous allons faire toute cette semaine, c'est avec vous, François-Xavier Fauvel, une histoire des connexions. Juliette Delperroux, Étienne Bertin et Frédéric Martin pour la préparation. Et vous entendez ce crescendo superbe dans notre générique, Fabrice Drouel ?
Mais bien sûr, Jean Lebrun. Aujourd'hui, le boléro de Ravel.
Alors, un autre crescendo.
Pas forcément une étude musicologique du boléro, mais surtout de ses ayants droit, ce qu'ils en ont fait. Haro sur la pelouse d'or.